Est-ce que vous avez déjà remarqué que souvent ce sont des insensés qui dirigent le monde? Avez-vous remarqué que souvent ce ne sont pas les gens humbles et gentils qui sont des chefs d'entreprise ou des chefs d'État? Ce n'est pas le plus sage qui nous gouverne souvent, mais c'est le plus fort. Et honnêtement, la force, c'est ce qu'on espère voir chez un leader, n'est-ce pas? On admire celui qui est intellectuellement et physiquement fort, qui s'exprime avec clarté, avec confiance. On admire l'intelligence, mais qu'en est-il de la sagesse? Qu'en est-il de cette capacité d'organiser, d'appliquer l'intelligence plutôt que juste avoir l'intelligence? Qu'en est-il de la disposition d'esprit qui consiste à penser comme Dieu pense? La fin de l'Ecclésiaste, chapitre 9, nous raconte l'histoire d'un pauvre homme qui habitait dans une petite ville et dont l'histoire prouve qu'une sagesse humble vaut mieux qu'une puissance forte et arrogante. Ce texte va nous rappeler que même si l'humble sagesse ne fait pas le point face à la puissance du monde, cette humble sagesse pourrait quand même nous surprendre. Lisons donc Ecclésiaste chapitre 9, versets 13 à 18. Ecclésiaste chapitre 9, versets 13 à 18. J'ai aussi vu sous le soleil cet exemple de sagesse qui m'a paru remarquable. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et construisit contre elle de vastes retranchements. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui aurait pu délivrer la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. J'ai dit, la sagesse vaut mieux que la vaillance. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont point écoutées. Les paroles des sages écoutées dans le calme valent mieux que le cri de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les armes de combat, mais un seul pécheur anéantit beaucoup de bien. Avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Notre Dieu, tu nous as donné ta sagesse dans ta parole. Cette parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, nous te prions de rendre ta parole fructueuse dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, je veux souligner deux points que l'on trouve dans ce texte. Il y a deux points. Dans un premier temps, nous allons voir la sagesse exemplifiée. Et dans un deuxième temps, la sagesse exaltée. Nous allons voir que cette humble et petite sagesse compte même quand personne ne la regarde et même quand elle est méprisée. Dans les versets 13 à 15, nous voyons cet exemple d'une sagesse qui est plus forte qu'une puissance pourtant impressionnante et hostile. Il faut noter que cette histoire du pauvre homme, ce pauvre homme sage, n'est pas juste un exemple inventé pour illustrer un point tout simplement. D'accord? C'est plus qu'une métaphore pédagogique. L'auteur de l'Ecclésiaste nous parle d'un événement historique remarquable, quelque chose qui a captivé son attention. C'était si impressionnant que le roi philosophe qui a écrit ces mots a noté cet exemple pour l'édification du peuple, même si le nom et l'acte de ce pauvre homme sage avaient déjà été oubliés par la plupart des gens. Alors cet acte de sagesse a sauvé une ville, ou selon certaines traductions, il aurait pu la sauver. En fait, ça c'est difficile de traduire ce texte. J'ai consulté les mots originaux en hébreu, j'ai consulté quelques commentaires aussi. Ce n'était pas évident de traduire ce texte. En fait, je préfère la traduction « qu'il a sauvé la ville » au lieu de « il aurait pu la sauver ». Mais ça, ce n'est pas très très important en fait. Ce qui est important dans ce texte, c'est le fait qu'il avait la sagesse. Il avait la capacité de sauver cette ville par sa sagesse. Donc ça, c'est un détail très important là. Donc cet acte de sagesse qui a sauvé cette ville, si on traduit le texte comme ça, m'a fait penser tout de suite à l'histoire d'Archimède qui a sauvé la ville de Syracuse d'entre les mains des Romains. Alors Archimède était un scientifique grec, c'est celui qui a fait cette fameuse exclamation « Eureka, j'ai trouvé !» et qui s'est mis à courir tout nu à travers les rues de la ville, en fait. En fait, ça, c'est exactement ce que fait notre pasteur Alex à chaque fois qu'il trouve une bonne illustration pour ses prédications. Voilà. Mais revenons à cet exemple d'Archimède à Syracuse. Vous connaissez peut-être l'histoire. La ville grecque de Syracuse a été attaquée par une flotte romaine. La légende veut qu'Archimède ait mis au point des miroirs géants pour réfléchir et concentrer les rayons du soleil et pour orienter ces rayons vers les voiles des navires afin de les enflammer. D'autres sources nous disent qu'Archimède aurait fixé des gros crochets en fer sur les murailles de la ville. Et quand les navires ennemis se sont approchés de la ville, ceux qui la défendaient ont utilisé les crochets pour attraper les navires, pour les sortir de l'eau et ensuite pour les détruire. Alors cette histoire est certainement embellie, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est vrai historiquement, mais ça illustre quand même la façon dont un seul homme, dans sa sagesse, peut sauver une ville. Mais il y a une grande différence ici entre la vie d'Archimède et la vie de l'homme pauvre dans le texte de l'Ecclésiaste. Archimède était un grand scientifique célèbre et renommé dans l'histoire. Par contre, on ne connaît pas le nom de l'homme pauvre dans l'Ecclésiaste. On ne sait pas ce qu'il a fait. Mais tout comme cet homme pauvre et sage qui a sauvé cette ville, notre monde contient beaucoup de gens sages et éclairés qui agissent pour le bien de leur famille, pour le bien de leurs amis, pour le bien de leur ville, pour le bien de leur monde. Leur nom est inconnu, leurs actes sont oubliés, mais leur influence subsiste toujours. Peut-être que l'homme pauvre n'était pas apprécié pendant sa vie, mais son histoire nous rappelle que la sagesse compte même quand personne ne la regarde. Il y avait une méga-church aux États-Unis qui a fait l'actualité il n'y a pas très longtemps. Et cette église a grandi, s'est multipliée autour d'un pasteur qui avait une personnalité très forte, un homme d'influence. Ce pasteur était un très bon prédicateur. Il était cool, il était un peu hipster aussi. Il a attiré des milliers de personnes à son église. Mais quand le pasteur a cédé sa place pour des raisons personnelles, tout l'empire qui s'était développé autour de cet homme a disparu. Maintenant, il ne reste plus rien. Par contre, chaque dimanche, il y a des milliers d'églises dans le monde qui se réunissent humblement pour louer le Seigneur. Leurs pasteurs ne sont pas connus. Leurs musiciens ne sont pas des professionnels. Leurs salles de culte, s'ils en ont une, sont incongrues et inadaptées. Mais ces petites églises montrent qu'un culte humble et fidèle dans la soumission à Dieu vaut mieux que la renommée. Combien de choses se produisent en fait dans ce monde dont nous n'avons pas conscience mais qui sont vitales pour notre existence néanmoins. Chaque fois qu'on inspire de l'air, il y a un processus naturel qui se produit, qui dépasse peut-être notre compréhension et qui est en tout cas invisible à nos yeux. Il y a des événements extraordinaires qui se passent dans ce monde, des choses incroyables qui comptent même quand personne ne les regarde, n'est-ce pas? Grâce à cet homme pauvre et oublié, la vie et la subsistance de beaucoup ont été préservées, si on interprète le texte comme s'il a sauvé la ville. On ne sait pas si c'était par un acte de guerre, par un acte de diplomatie, par un acte de prière que cette ville a été préservée. Mais on sait que la sagesse de cet homme a compté même quand personne ne l'a regardée. De même, la sagesse de Dieu qui se manifeste dans son Église, dans votre attachement à lui, dans votre humble service, cette sagesse a une valeur énorme. La sagesse de Dieu compte même quand personne ne la regarde. Quand on passe à la deuxième partie de ce texte, au verset 16 à 18, on voit la façon dont la sagesse est exaltée par l'auteur de l'Ecclésiaste. Même quand les gens se retournent contre la sagesse, en l'ignorant, en méprisant son appel, même là, la sagesse garde sa valeur. Les versets 16 à 18 nous rappellent que la sagesse compte même quand elle est méprisée. Dans ces versets, nous voyons que la sagesse du pauvre homme a été vraiment méprisée, non seulement par ceux qui avaient le pouvoir et l'influence, mais par tout le monde. Ses paroles n'ont pas été écoutées, ils étaient oubliés. Lui et la sagesse a été réduit au silence par les puissants. Ça me fait penser en fait au film Slumdog Millionaire, qui raconte l'histoire d'un jeune homme pauvre en Inde qui a grandi dans un bidonville, qui a l'occasion d'être finaliste du jeu télévisé qui veut gagner des millions. Vous connaissez ce jeu. Le jour venu, à la grande surprise de tous, il répond correctement jusqu'à la dernière question. Ce jeune homme, sans famille, sans argent, sans influence, sans éducation, gagne la plus grosse somme d'argent possible, l'équivalent d'un million d'euros. Mais sa sagesse n'est pas reconnue par tout le monde, en fait. Il est soupçonné par le présentateur et par d'autres personnes d'avoir triché, ce qui pousse la police à chercher à le faire avouer. Mais ensuite, dans le film, on apprend que sa réussite dans ce jeu est due à la sagesse qu'il a accumulée au cours de son existence misérable. Toutes les circonstances de sa vie ont contribué à la sagesse et l'ont mené aux bonnes réponses. La sagesse, en elle-même, ne nous satisfait pas toujours. Souvent, nous voulons savoir quelle est la source de cette sagesse. Si on se méfie d'une personne, on se méfie de ce qu'elle dit aussi. Par exemple, si on n'aime pas un certain commerçant, ou si on n'a pas confiance en lui, naturellement, on va se méfier de ce qu'il nous vend, n'est-ce pas? On va se méfier des produits qu'il nous propose. Si un garagiste est malhonnête, on va se méfier des services qu'il nous rend. De même, si on n'aime pas la personne qui parle, on sera plus lent à écouter sa parole, même s'il nous donne la vérité, même si c'est la sagesse qu'il nous communique. Et peut-être que ça, c'est votre attitude aujourd'hui vis-à-vis de Dieu. On pense que Dieu est méchant, on pense que Dieu se fiche de nous. Beaucoup de gens, tout simplement, n'aiment pas l'idée qu'il y a ou qu'il y ait un Dieu. Et donc, ils rejettent aussi le salut qu'il nous offre. Tout le monde aime l'idée du salut, bien sûr. Mais c'est l'idée de Dieu qui nous dérange. Si je peux me permettre, il me semble que dans un monde où Dieu ne rentrerait pas en compte, on cherche naturellement le salut en soi-même. Tous nos actes, tous nos projets ont pour but notre salut. Dans un monde où Dieu ne rentrerait pas en compte, notre but est naturellement de prolonger la vie, de trouver une réponse au problème de la souffrance et de la mort, de trouver une alternative au nihilisme et au suicide. Dans la politique, dans la science, dans la médecine, dans la philosophie, dans les arts, on a une sorte d'auto-justification. Il y a un désir, même si c'est subtil, de résoudre la question de la condition humaine. Il y a un désir de découvrir une espérance et de l'offrir à l'humanité. Nous voulons désespérément le salut, tant que ça ne vient pas de Dieu, n'est-ce pas? Nous pensons être notre propre sauveur. Mais ce texte nous incite à réfléchir à la valeur de la sagesse formulée humblement. Selon ce texte, il dit « Les paroles des sages, écoutées dans le calme, valent mieux que le cri de celui qui domine parmi les insensés. » Dans un monde où tout le monde fait du bruit, où tout le monde exige notre attention, notre allégeance. Il y a une voix douce, mais lucide, qui parle à notre âme et à notre cœur, qui nous régénère par sa vérité. Dieu nous parle en nous montrant que la sagesse humble peut nous changer plus que toutes les puissances du monde. Le message de la croix, qui est folie pour ceux qui périssent, est un message qui peut nous transformer si nous mettons notre confiance en Dieu. Ça nous rappelle que la sagesse compte même quand elle est méprisée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous admirons spontanément celui qui est intellectuellement et physiquement fort, qui s'exprime avec clarté, avec confiance. Nous admirons l'intelligence, nous écoutons ceux qui font plus de bruit, n'est-ce pas? Mais il y a une meilleure sagesse, une sagesse qui vient de Dieu par Jésus-Christ. Comme l'homme pauvre qui a sauvé sa vie par sa sagesse, Jésus aussi est venu dans l'humilité et dans la pauvreté. Jésus, dans la sagesse de Dieu, a donné sa vie afin de réparer la violence, la rébellion, le péché de l'homme. Jésus, dans la sagesse de Dieu, a donné sa vie en prenant notre place afin de satisfaire la colère de Dieu, la colère de Dieu contre les pécheurs que nous sommes. Jésus a fait face à la puissance hostile de Satan, à la puissance des autorités humaines, des leaders religieux, et à la puissance et à la colère des foules. Mais en fin de compte, c'est la sagesse de Dieu qui a triomphé. Il y a au moins deux choses qu'on peut tirer de ces quelques versets de l'Ecclésiaste chapitre 9. D'abord, je voudrais vous encourager à ne pas sous-estimer l'influence d'une petite communauté de chrétiens qui vit dans la sagesse. L'Église réformée évangélique de Lyon n'est pas particulièrement connue dans cette ville. Même la plupart des chrétiens à Lyon ne savent pas qui nous sommes. Nous n'avons pas une grande salle du culte. Nous n'avons pas l'honneur d'être reconnus et appréciés par les gens. La plupart des gens sont indifférents, j'imagine, à notre existence. Certains pensent peut-être que nous sommes une secte parce que nous sommes une église protestante. D'autres nous méprisent parce que nous croyons en Dieu, parce que nous prenons au sérieux ce que dit la Bible. Mais votre sagesse qui se manifeste par votre témoignage dans l'église, dans la communauté, va influencer le monde pour le bien. Votre sagesse qui se manifeste par la foi en Dieu, par le service dans son Église, va encourager vos frères et sœurs en Christ. Votre sagesse qui se manifeste par la prière, par l'application fidèle de la Bible, va bénir cette ville, ce pays et ce monde d'une façon que vous ne pouvez pas saisir peut-être entièrement. Ce que vous faites pour Christ est très très important. Et donc, ne sous-estimez pas l'influence d'une petite communauté de chrétiens qui vit humblement dans la sagesse. Ensuite, je voudrais vous encourager à ne pas chercher la renommée dans le monde au détriment de la sagesse. Votre force physique va s'épuiser un jour. Votre corps va se flétrir un jour. Un jour, votre intelligence va s'effacer. Nous ne vivons pas juste pour ce monde. La sagesse s'applique à plus que juste cette vie sous le soleil. Il y a des conséquences éternelles à ce que nous pensons et à ce que nous faisons. Si Dieu nous bénit en nous donnant une influence et une renommée, tant mieux. Mais ce qui compte, c'est la sagesse qui consiste à s'humilier devant Dieu et à mettre sa confiance en lui. La sagesse de Dieu vaut mieux que les âneries bruyantes du monde. Réfléchissez à la venue de Jésus. Ce que nous faisons pendant cette période de l'Avent, n'est-ce pas? Selon la sagesse du monde, le Christ aurait dû naître dans un palais magnifique. Selon la sagesse du monde, le Messie aurait dû être entouré des riches et des puissants. Il aurait dû être connu dans le monde entier. Il aurait dû être un homme imposant, une sorte d'empereur. Mais dans la sagesse de Dieu, Jésus, le Sauveur du monde, le Seigneur de l'univers, est devenu un bébé. Il est né dans une étable, dans un petit village pratiquement insignifiant. Son berceau royal était une crèche. Dans sa sagesse, Dieu a décrété que le plus petit, le plus vulnérable, le plus humble allait changer le monde en renversant le pouvoir du mal. Dans sa sagesse, Dieu nous offre le salut si nous mettons notre confiance non dans nos œuvres, mais dans l'œuvre de Jésus. Dieu a montré qu'on ne pouvait pas ignorer la sagesse, sa sagesse, qui a été révélée en Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous as aimés par ta sagesse, de ce que tu nous as sauvés par ta sagesse. Par la venue de Jésus et par son œuvre, tu as humilié les pouvoirs de ce monde. Tu as établi le règne de Jésus sur cette terre. Aide-nous, Seigneur, à te servir selon ta sagesse. Au nom de Jésus. Amen.